Je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne maîtrisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, encart, philo.
Rap, littérature, révolution.
Lundi, tous les lundis de 13 à 14 sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Montaigne Oisetug, émission de rap, littérature et révolution. Alors aujourd'hui, j'arrive avec deux bonnes nouvelles et une mauvaise. La première bonne nouvelle, c'est que Montaigne Oisetug retourne aujourd'hui à ses fondements avec une émission de littérature. Et je dirais même plus, Montaigne Oisetug retourne au fondement de ses fondements, puisque je vous propose aujourd'hui une émission sur celui-là même qui a donné son nom à notre émission, c'est-à-dire Montaigne. Deuxième grande nouvelle, c'est que nous recevons aujourd'hui la grande spécialiste internationale de Montaigne, j'ai nommé Oriane Demonet. Et voilà, maintenant je vais en venir à malheureusement la mauvaise nouvelle, c'est que je dois vous avouer que si cette émission a pris tant de temps à se faire, à se construire, à voir le jour, c'est parce que Mademoiselle Demonet ici présente est en quelque sorte, et je dois utiliser un euphémisme pour employer ces mots qui m'arrachent le cœur, une suppo du capital. Oui, j'entends déjà vos cris de rage, chers auditeurs, mais ne vous offusquez pas tant. Mademoiselle Demonet m'a aujourd'hui promis de mettre de côté ses convictions capitalistes pour se vouer à cette tâche merveilleuse et authentiquement révolutionnaire qu'est l'amour de la littérature. Bonjour Mademoiselle Demonet.
Bonjour monsieur.
Et nous avons aussi évidemment notre compagnie pour le début de l'émission tout du moins, l'authentique, le véritable Bertrand Fibien.
Bonjour.
Donc Mademoiselle Demonet, ici présente, grande spécialiste de Montaigne, va aujourd'hui nous parler de Montaigne. Alors pour les auditeurs, pouvez-vous rappeler un peu qui est Michel Ekeim de Montaigne ?
Alors, Michel Ekeim de Montaigne, justement, est surtout connu pour l'écriture des essais, mais l'homme en lui-même, c'était un humaniste et un magistrat du XVIe siècle, qui a vécu dans le sud-ouest de la France.
Toulouse ?
Non, pas du tout à Toulouse. Ouh. À Bordeaux, et dans la région de Guyenne, qui était justement l'actuelle Aquitaine. Alors, c'était un homme de la petite noblesse, puisque même s'il revendique cette noblesse dans ses écrits, sa famille n'acquiert son titre de Montaigne que à la fin du XVe siècle, quand son grand-père, Ramon Ekeim, rachète la terre de Montaigne. Donc, c'est une petite noblesse de robe.
Avant, c'était un bourgeois, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, il était, son grand-père était marchand, et c'est ensuite son père qui décide de se tourner vers la magistrature, et qui devient par la suite maire de Bordeaux. Et Montaigne suivra presque exactement le chemin tracé par son père, puisqu'il rentre d'abord dans la magistrature, et c'est un petit magistrat, il finit par quitter ses fonctions, et devient en 1581 le maire de Bordeaux pour deux mandats durant la période des guerres justement civiles, des guerres de religion en France. Donc une période très mouvementée où il cherche à maintenir la paix dans sa région, tout en écrivant les essais qui feront de lui l'écrivain si célèbre pour la postérité.
Voilà, donc c'est quand même pas n'importe qui, hein. il a bien fait son chemin, il est devenu maire de Bordeaux.
Oui, c'est le roi qui a expressément demandé à ce que ce soit Montaigne qui prenne la tête de la ville de Bordeaux. Mais bien qu'il ait semblé assez réticent au départ à aspirer à cette fonction, il se satisfait lui-même d'avoir été reconduit à la tête de Bordeaux, ce qui montre tout de même qu'il attache une certaine importance à cette fonction.
Et donc à la politique.
Oui, à la politique. Aussi avec l'idée que succéder à son père, c'est dans quelque sorte faire honneur à son nom, à sa famille.
Donc c'est pour une question d'honneur qu'il devient maire de Bordeaux, ou c'est parce qu'il a des projets politiques pour la ville, pour le pays? Est-ce que vous pouvez un peu resituer le contexte de l'époque?
Alors, c'est une époque très troublée, l'époque où a vécu Montaigne, puisque il a vécu sous le règne de trois rois très, très différents. D'abord Charles IX, qui restait célèbre à cause du massacre de la Saint-Barthélemy, puis Henri III, et enfin Henri de Navarre, le futur Henri IV. Et Montaigne, pendant les guerres de religion, il y a trois partis en France qui se disputent la couronne et qui se disputent la direction du pays. D'un côté, le parti du duc de Guise, le parti des catholiques, on dirait aujourd'hui intégristes, même si le terme ne s'applique pas vraiment à l'époque.
Un peu fou, des catholiques qui veulent tuer des gens.
Oui, voilà, qui veulent qu'il n'y ait que des catholiques en France. Et inversement, il y a le parti des protestants aussi, qui est armé, auquel Henri de Navarre appartenait, mais qui se détache progressivement justement à cause de cette violence, qui cherche à renverser la monarchie de la famille de Catherine de Médicis et de Charles IX, Marguerite de Navarre. Toute cette dynastie qui est sur le point de s'éteindre avec un glissement vers la famille de Navarre, justement. Et Montaigne, lui, est dans le troisième parti, le parti des politiques, qui est le parti modéré, qui cherche à éviter un désordre absolu en France et empêcher le chaos de s'installer. Et c'est pour ça qu'il obéit au roi, puisque pour lui, la seule solution à long terme, c'est de maintenir la monarchie en place, qui permettra... d'endiguer la guerre de religion.
Donc finalement, il est un peu pour les catholiques.
Oui, voilà. Montaigne est catholique lui-même, il faut savoir. Bien que dans les essais, il ne revendique pas cette catholicité. On le voit dans le récit de ses voyages, qu'il est un fervent catholique. Mais à aucun moment dans ses essais, il ne condamne la religion protestante. Et il ne cherche pas... justement à donner la primeur à la religion catholique, puisqu'ensuite il va se rallier, une fois à la mort du roi Henri III qui est assassiné, il se rallie tout de suite à Henri de Navarre qui est un protestant, avant qu'il abjure sa foi, et bien qu'il ne serve pas Henri de Navarre puisqu'il choisit de se retirer dans ses terres, il est pour la légitimité de la lignée royale. C'est plus un choix politique que religieux de la part de Montaigne.
Oui, c'est parce qu'il veut conserver le calme, quoi. Il veut que ça se passe bien.
Oui.
En gros, le mieux possible.
Pour Montaigne, la guerre, c'est vraiment le fléau de la France. C'est-à-dire que, justement, dans l'exercice de ses fonctions de maire de Bordeaux, et en tant que grand propriétaire terrien, il voit tous les jours les sévices de la guerre. Il est attaqué dans ses terres, ce qui sont pillés d'ailleurs. En même temps, à une certaine époque, il est obligé de fuir son château, puisqu'il est trop excentré par rapport à la ville et il risque d'être pris par les troupes rebelles. Et il se retrouve à vivre avec des paysans qui sont touchés par la peste.
D'accord.
Donc, à ce moment-là, vraiment, il se satisfait de rester très calme face à la situation. Montaigne est toujours très, très content de sa tranquillité d'esprit face au désordre environnant. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que vraiment la situation politique ne peut pas durer pour le bien-être de ses concitoyens et tout simplement pour la pérennité de la nation. Il attache beaucoup d'importance à la nation française et au retour à l'ordre, en fait.
D'accord. Donc peut-être qu'on va passer à ce pourquoi on connaît aujourd'hui Montaigne, ce gros bouquin, Les Essais. Qu'est-ce que c'est alors ?
Les Essais, comme son titre l'indique, c'est pour Michel de Montaigne l'occasion d'exercer sa raison, de s'exercer à l'écriture. Au départ, ça se présente comme... Il y a trois tomes dans Les Essais, il faut savoir. Le premier tome qu'il écrit s'inspire beaucoup de ce qu'il est en train de lire dans ses terres de Montaigne alors qu'il fait sa première retraite, après avoir déposé sa démission de la magistrature du palais de justice de Bordeaux. Il lit les auteurs anciens et il s'inspire des livres qui sont à la mode à l'époque, des livres qui condensent des faits divers, des histoires un peu fantasques ou tous les thèmes chers à la littérature de l'époque et pas forcément des sujets très, très élaborés. Par exemple, il s'intéresse aux maladies, justement, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Des menteurs ». Plus loin, on a « Quelle intention juge nos actions ?»
Un peu la vie de tous les jours, j'ai l'impression. C'est ça, un peu le...
Donc, oui, non, la vie de tous les jours sera surtout dans le dernier tome, mais dans ce premier tome, il étudie beaucoup les travers humains, des caractères, et les travers de la guerre, puisque les grands auteurs latins qu'il lit écrivent beaucoup sur le sujet de la guerre, les combats, comment parlementer avec l'ennemi, ce genre de choses, la vaillance dans l'action. Donc les essais d'abord, c'est un essai de son jugement et de forme d'écriture. Il essaie de condenser plusieurs idées qui le travaillent, et puisqu'il a le temps, il écrit. Et ensuite, ça devient cet énorme livre qu'on a aujourd'hui, en 3 tomes. Dans mon édition...
Le machin sur la table, je vous dis, c'est vraiment gros.
Ça fait plus de 1000 pages, c'est écrit assez petit, il y a beaucoup de notes. Donc c'est un livre qui s'écrit sur près de 20 ans, qui l'a enrichi au fur et à mesure, puisqu'il a différentes versions des essais. La première,
c'est-à-dire qu'il est revenu sur des passages qu'il avait déjà écrits.
Oui, voilà, il publie en 1580 une première version, et ensuite il enrichit cette version, et même après sa mort on a retrouvé des manuscrits qui font ce qu'on appelle la strate C du livre, où dans les marges il a continué à insérer des remarques, des exemples. Donc c'est une œuvre qui évolue avec la vie de Montaigne, avec l'évolution de ses considérations politiques, philosophiques. C'est une œuvre magistrale. Aujourd'hui, surtout ce qu'on en retient, ce qu'on étudie à l'école par exemple, c'est des partis pris assez nouveaux qu'il prend, par exemple sa défense des cannibales, c'est le chapitre qu'on lit en général en cours de philosophie par exemple, qui montre bien la modernité de la pensée de Montaigne. Il y a sur d'autres points où il est très moderne aussi, mais qui sont plus laissés à l'écart, par exemple sa réflexion sur les lois, sur les coutumes, sur les superstitions de son pays, qu'il veut remettre en cause, mais sans aller jusqu'au bout, puisque justement, c'est ce qui, selon lui, pourrait causer un nouveau désordre en France. Donc, il a une pensée très, très vivante, il observe ses contemporains, et il voit ce qui pourrait évoluer si les hommes avaient la maturité, et si le contexte était assez calme pour proposer ces évolutions pour la société. Mais cette marche en avant qu'il envisage, elle n'est pas pour son temps, puisque Montaigne, c'est aussi une sorte d'apax littéraire. C'est-à-dire que quand on compare avec les écrits qui sont publiés à son époque, on voit bien que c'est un peu cet îlot de calme, de tranquillité au milieu d'un tourbillon de violence, même dans les écrits du XVIe siècle. Il y a cette agitation du dehors qui contamine en quelque sorte la littérature. Et lui, il se sert aussi de ses essais pour préserver ce calme qui est en lui et qui est si singulier chez les hommes de son temps.
Très bien, je vous remercie pour cette contextualisation, mademoiselle de Monet. Alors on va peut-être faire une petite pause musicale avant de rentrer plus profondément dans les essais.
Le surnomme le Jaguar Gordon. Ce n'est pas son dernier combat, ce n'est pas son ultime combat, c'est un combat de plus. On va accueillir celui qui vient du 93 avec sa gueule de métal, Joël Star.
Avec ma gueule de métal. Avec ma gueule de métal. Avec ma gueule de métal.
Avec ma gueule de métal, paganage de négrérant, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc impossible, dans le rang impossible, votre morale au crime. Qu'on me délaisse de mon écho, ça me rend sale sur l'écran, ça me rend sale dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. J'en ai trop, avec ma gueule de métal, mon œil de prédateur, en phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur. Poussé comme une mauvaise herbe, comme un monde croit tout seul, qu'on me dicte mon attitude. La gerbe, c'est la merde, c'est la merde.
Avec ma gueule,
avec ma gueule de métal, un pistolet qui s'est bastonné, à qui on a pris tout volé, si peu donné. J'ai pris des branlés par un père déserteur, au point d'en espérer qu'en enfer y ait du bonheur. La perception atrophiée, et c'est pas votre moralité qui m'a habillé. Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé, auquel personne n'a jamais voulu rien changer. Avec ma gueule de métal, approuvé par la passion, mon sacerdoce c'est ma mission. Et si récompense il y a, mon cœur me dit de trépas. Rien n'est acquis, je l'ai toujours pris ça. Ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas.
Avec ma gueule,
avec mon air aigré la mer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre. Je roule pour la maison mère. Avec ma gueule, je fais bélec. J'ai pas une ganache de dieu grec. Il est possible qu'on m'arrête ou par erreur qu'on m'affrète. Avec ma bouche qui a trop, mon air obtus qui pue la rue. Cette façon d'être à l'affût et en même temps d'être à la rue. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver. Avec mes rêves de délinquant, mes coups de sang incessants. Avec ma gueule de métal, héritière d'une souffrance lointaine. Je veux pas finir en victime, ni même finir à freine. Avec son visage, ses yeux verts, tout me rapproche de ma mère, tout m'éloigne de mon père. Grâce à qui j'ai ce goût amer.
Avec ma gueule,
yes, vous venez d'écouter Métèque de Joey Star sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Émission Montaigne was a thug, rap, littérature et révolution, avec aujourd'hui enfin une émission sur Montaigne. Alors, on va, est-ce que Montaigne va être un thug aujourd'hui, Mademoiselle de Monet?
Sans doute pas dans le sens où vous l'entendez dans cette émission.
Mais déjà, moi j'ai envie de dire que le fait de préserver un petit îlot de calme au sein de ce siècle troublé de guerre, hein, ce petit îlot que constituent les essais, c'est un peu être, voilà, dans la marge, un peu être révolutionnaire que de faire ça.
Oui, on peut dire qu'il va à contre-courant de la pensée de son temps, mais justement, tout en ne voulant pas d'une révolution pour son temps.
Et du coup, à ce propos, est-ce que donc il a des idées donc qui n'appartiennent pas à son temps, mais est-ce qu'il écrit ses idées en pensant que peut-être son livre servira à la postérité, en disant que ce seront des idées qui plus tard, peut-être, grâce à lui, vont mettre...
C'est une très bonne question. Montaigne choisit d'écrire les essais en français, et c'est assez rare pour être souligné, puisque à son époque, la langue savante, c'est le latin, et Montaigne a pour langue maternelle le latin. Puisqu'il a été élevé par un précepteur qui parlait latin couramment. Donc ce n'est même pas la langue naturelle de Montaigne, le moyen français du 15e et du 16e siècle. Mais il choisit d'écrire en français justement parce qu'il veut être lu par ses descendants directs et par les hommes qui l'entourent, dans l'idée que dans 10, 20 ans, 100 ans, grand maximum, son texte sera de toute façon dépassé. Sa langue sera morte et donc il n'aura pas de postérité. Il ne vise pas du tout à faire œuvre dans le temps. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses amis, ses proches se souviennent de lui tel qu'il était et qu'on ne puisse pas entacher sa mémoire. Donc il parle pour les gens qui auraient la mémoire de lui. Donc vraiment, c'est contemporain direct et sans penser à aucun moment même. Les gens qui étudient Montaigne disent souvent qu'ils seraient le premier étonné qu'on fasse tant de gloses autour de ses propos, qu'ils jugent des rêveries inutiles. Et dès l'avis au lecteur, il dit « Lecteur, tu es face à un livre bien mauvais et sans intérêt, donc tu ferais mieux de passer ton chemin. »
Et pourtant, 500 ans après, on le lit encore.
Et oui, c'est ça le miracle de la littérature.
Pas mal, ce Montaigne. Alors, on va rentrer peut-être un peu...
plus profondément dans l'œuvre de Les Essais. Et avec cette question pour vous, mademoiselle de Monet, vous avez parlé tout à l'heure du passage des cannibales de Montaigne.
Oui.
Vous avez dit que c'était un passage grandement moderne, voilà, encore étudié aujourd'hui en classe de philosophie. Et donc, quel est le discours que tient voilà, Montaigne dans Les Cannibales?
C'est un discours là encore assez novateur pour son temps, puisque il prend la tolérance à l'égard de ces hommes qu'il ne connaît pas, qui sont jugés par ceux qui les côtoient, c'est-à-dire par les explorateurs, par des gens que Michel de Montaigne connaît, comme des barbares. Et c'est sur ce terme presque que commence l'essai, en disant qui est véritablement barbare? Est-ce ces gens qui mangent des hommes, ou bien est-ce que c'est nous? Est-ce que dans nos pratiques, nous ne sommes pas plus barbares qu'eux encore? Et il met à l'essai justement cette conception du mot barbare, ces deux modes de vie que sont le mode de vie des sauvages et le mode de vie des hommes civilisés de l'Occident, en montrant que les sauvages ont peut-être, en étant plus proches de la nature, en étant on a une vie plus simple, parviennent à une existence qui serait moins barbare que celle des hommes les plus civilisés, qui dissimulent justement. Montaigne travaille beaucoup sur cette idée de la dissimulation, de la fausseté des apparences chez les hommes dans la société. Et les hommes, certes, les Occidentaux ne mangent pas d'hommes, mais ils commettent des actes qui pour Montaigne sont plus atroces encore. Et les guerres de religion lui fournissent bien sûr des exemples quasi quotidiens de cette barbarie. Et c'est l'un des premiers à faire montre d'une telle tolérance vis-à-vis de celui qui est tellement autre que lui. Et il rencontre des cannibales alors qu'il accompagne Charles IX dans un de ses voyages.
Où ça ?
Je ne sais plus exactement, mais des cannibales qui viennent justement visiter la cour de France.
D'accord.
Donc c'est un événement assez exceptionnel. Le roi se déplace.
Il les rencontre en France.
Oui, oui. Et, voilà. Il fait part des remarques qu'ont fait certains de ses amis qui sont allés en Amérique et qui en reviennent avec beaucoup, justement, beaucoup d'images, beaucoup de. En ayant noté beaucoup de coutumes qui peuvent les étonner, mais qui en fait. Témoigne d'une humanité commune des sauvages, de beaucoup de traits qui seraient communs à une humanité primitive, on dirait aujourd'hui. Et Montaigne se fait un peu dans cet essai un ethnologue en témoignant de ses coutumes, en essayant de les classer, de montrer.
Voilà, mais ça, c'est par Ondi, en fait. Qu'il, voilà.
Oui, voilà, il s'appuie vraiment sur des témoignages oraux, il le dit lui-même, parce que il reproche. Beaucoup aux écrivains, aux scientifiques supposés, d'écrire des choses qu'ils n'ont pas vues, de rendre raison de choses qui sont aussi des oui-dire. Donc lui, il s'inscrit dans cette oralité. Et d'ailleurs, les philosophes du 17e, du 18e, comme Bayle ou Fontenelle, vont beaucoup travailler sur cette idée de la fausseté des écrits qui font que, justement, l'écrit, c'est quelque chose qui devrait être sûr. Et en s'appuyant sur ce qu'ils ont lu dans les livres, des gens prennent pour faux ce qui est pour vrai ce qui est faux. Mmh. Donc Michel de Montaigne, en quelque sorte, il cherche à échapper à cette critique qui va bientôt arriver.
Oui, donc mais en s'appuyant sur des oui-dire. Bon.
Oui.
Et donc alors qu'est-ce qui choque par exemple les cannibales quand ils arrivent à Paris? Qu'est-ce qui les étonne? Qu'est-ce que Montaigne fait remarquer qui, voilà, outre les guerres de religion, qui peut paraître dans notre société finalement barbare, entre guillemets?
Donc Montaigne, ce qui le choque beaucoup, c'est que les hommes donnent la mort avec cruauté. Et il montre que les barbares, ceux qu'on appelle barbares, encore une fois, donnent la mort avec moins de cruauté que nous. C'est-à-dire que, par exemple, bon, il mange des hommes. Donc c'est toujours très choquant, mais il dit, dans une remarque qui est véridique, même si elle a quelque chose de comique en la lisant, qu'au moins, il les tue avant de les faire cuire. Alors que les hommes de son temps lâchent des chiens sur, sur les protestants et ils se font dépecer vivants. Donc pour lui, c'est beaucoup plus choquant.
Oui, c'est plus cruel finalement à l'attitude voilà. des protestants.
Voilà, et puis il y a surtout une idée qui le frappe beaucoup dans les récits qu'il entend, c'est le respect de l'ennemi qu'il y a chez les cannibales. Il s'attarde beaucoup sur leurs pratiques guerrières en montrant que pour les cannibales, la victoire, ce n'est pas de tuer l'ennemi, c'est de s'en rendre maître. Et donc ainsi...
quelle est la différence, donc entre tuer et s'en rendre maître? Rendre s'en rendre maître réduire en esclavage?
Non, non, justement. Maître de son esprit, parce que les cannibales ont tous une pratique de la guerre, par exemple, face aux prisonniers de guerre. Ils ne les torturent pas, ils ne cherchent pas alors ce qui arrive... avec les protestants et catholiques, par exemple, quand si c'est un protestant, on le torture pour faire abjurer sa foi. Et chez les cannibales, on ne torture pas l'ennemi, on essaie de l'effrayer pour qu'il prenne peur et qu'il fuit, par exemple. Il y a une scène assez étonnante où il fait part d'un prisonnier de guerre qui reste des mois prisonnier, et ceux qui ont entre leurs mains, ils lui disent « Oui, on va te cuire, on va te manger, tu vas souffrir. » Et l'autre, il tient bon, il s'enfuit pas, il sait pas s'enfuir, il a pas peur, il reste digne jusqu'au bout.
C'est un bonhomme, quoi.
Voilà, et même, il les clash, il leur dit... il passe son temps à leur dire de sa sanité, donc à la fin, il se fait effectivement cuire, mais il n'a pas été vaincu.
Mmh.
Et Montaigne revient juste à l'histoire grecque, en faisant part de la fameuse bataille où les 300 guerriers spartiates se sont sacrifiés pour empêcher les Grecs de passer. Et il dit ça, c'est la vraie victoire. Certes, on est mort, mais on a vaincu en fin de compte. Donc voilà, Michel de Montaigne, au-delà de l'apparence des cannibales qui n'ont pas de choses, ce qui choque beaucoup les gens qui les voient, il dit ce sont peut-être des hommes plus dignes que nous. Et à la toute fin des essais...
En fait, il y a une certaine noblesse d'esprit qui voit qu'il y a, en fait, noblesse même au sens français, encore, le sens d'un idéal de noblesse avec une force, voilà, quelque chose de qui s'élève au-dessus de biens matériels, de possessions, où voilà, qu'on n'est pas dans la souffrance, on n'est pas dans le corporel, et on a un esprit qui nous permet d'être plus fort, voilà, oui, une attitude de noblesse, j'ai envie de dire. C'est peut-être ce qui se perd aussi dans le combat entre les protestants et les catholiques au XVIe siècle, et que Montaigne arrive à retrouver dans cette attitude des sauvages. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. Voilà.
Oui, je pense que... Non, Montaigne ne transpose pas l'idéal de la noblesse française à une idée de la noblesse qu'on se ferait aujourd'hui, c'est-à-dire la noblesse de cœur. Il n'emploie pas le sens noble dans ce mot, dans ce texte, mais oui, je parlerais d'une grandeur ou d'une vaillance qui le marque et qui vraiment lui permet de contraster avec les réalités de son temps. Parce que ce qui se passe dans la guerre civile, c'est quand même des frères qui se déchirent en quelque sorte, des voisins qui s'entretuent. C'est une telle déflagration de violence pour... c'est en quelque sorte du jamais vu. Parce qu'il y a quand même des lois de la guerre, même à cette époque. On se bat entre armées, par exemple. Et là, non, c'est... C'est tout ce qui est... tout ce qu'on... Comment dire ? C'est comme aujourd'hui dans les grands conflits mondiaux, on pense avoir atteint une barbarie indépassable en quelque sorte. Et vraiment, Montaigne pense que c'est là qu'on atteint la barbarie la plus grande et qu'on ne peut pas aller au-delà. Et
Oui, on n'a qu'à voir le film La Reine Margot, par exemple, avec les scènes de violence, femmes enceintes
Voilà, on assassine des nourrissons.
Assassiner.
Oui, des femmes enceintes qui se font égorger.
Transpercées. Voilà, bon. On passera les détails.
On va s'arrêter là pour la description de l'horreur. Mais oui, pour Montaigne, les sauvages ne sont pas sauvages dans leurs attitudes. En tout cas, dans leur cœur, ce qu'ils voient, c'est l'état de nature et pas l'état de sauvagerie. Et ça va vraiment avoir une pérennité dans la pensée philosophique française, cette idée qu'on retrouvera chez Rousseau, par exemple.
Rousseau, il s'inspire de Montaigne, par exemple, quand il parle de l'état de nature.
Je sais pas. Il s'inspire d'un courant de philosophie qui naît au XVIe siècle, avec l'idéal du bon sauvage.
D'accord.
Auquel participe Montaigne, même d'autres philosophes avec lui. Commence à créer cet idéal, oui, cette idée qu'il y a une nature originelle qui était bonne en l'homme, et que c'est la société qui vient en fait corrompre tout ça. Et vraiment, par certains côtés, on retrouve la pensée de Rousseau, par exemple, en évoquant Platon, il dit ce qui est intéressant chez ces sauvages, c'est qu'il n'y a aucun trafic dans leur société. C'est-à-dire, trafic au sens monétaire, mais au sens plus premier de l'échange ou des classements, des classes, d'une hiérarchie des hommes. C'est-à-dire que on n'échange pas d'argent, tout est en commun. Et aussi, il note que la guerre n'a pas le même sens parce que en France, on fait la guerre pour obtenir des territoires, alors que pour les sauvages, les territoires n'appartiennent à personne. Il y a juste le lieu du village qui est le lieu de la communauté qu'il faut défendre. Mais étant donné qu'il y a tout en abondance, que les hommes ne sont pas privés par d'autres hommes des biens premiers, la nourriture, l'eau, il n'y a pas d'intérêt à faire la guerre si ce n'est pour des causes plus nobles que simplement chercher le petit lopin de terre en plus qui est pour lui. Enfin, il ne s'attarde pas là-dessus, mais on voit bien qu'il trouve ça assez futile.
D'accord, donc pour ce passage des cannibales dans les essais. Alors maintenant, peut-être une autre question que j'ai à vous poser, mademoiselle de Monet. C'est sur ce dont on parle souvent, hein, la chanson Les copains d'abord parle bien de Montaigne et la Boétie. C'était pas deux amis, machin, comme Montaigne et la Boétie. Alors, ces essais de Montaigne parlent d'une amitié, apparemment, un peu légendaire, un peu mythique, entre deux personnages que sont Montaigne et Étienne de la Boétie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, cet amour, cette recherche de l'alter ego?
Oui, c'est encore une fois un des sujets qu'on évoque le plus quand on évoque Michel de Montaigne.
Un sujet mainstream.
Voilà. Déjà, il faut savoir que pour Montaigne, l'autre est essentiel dans la construction de soi. C'est-à-dire que dans son chapitre de l'institution des enfants, où il conseille à une de ses amies les meilleures méthodes pour élever son enfant, il dit bien que on apprend moins dans les livres qu'on contacte des hommes. Et toute sa vie, il va en quelque sorte appliquer ce précepte. Lui-même, il va voyager, bon, pas jusqu'en Amérique, mais en Italie, il va aller à la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures, en cherchant toujours à aller au contact de ce qui est différent de lui, pour s'enrichir de ce contact. Et vraiment, on pourrait penser qu'il prône l'étude sérieuse, la lecture pour développer son esprit. Mais une des citations de Montaigne, c'est « Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et c'est cette idée que ce n'est pas en accumulant le savoir qu'on devient un homme indépendant, un homme avec de l'esprit critique, mais en s'essayant à l'expérience. Et justement, il veut faire l'expérience des hommes. Il veut aller à la rencontre des autres pour chercher à travers ce qu'il appelle la conférence, ce qu'on appellerait nous la conversation. Conférence, c'est le terme du XVIe siècle. À travers la discussion, il voit un moyen déjà de transfigurer cette violence primitive entre les hommes, puisque pour lui, l'échange... L'échange oral est une forme de sublimation de l'échange physique. Au lieu de combattre avec des armes, lui, il veut combattre avec des mots. Il cherche le bon adversaire. Il utilise bien cette métaphore de la joute oratoire. Il cherche à transposer la violence dans un échange poli avec les hommes pour arriver à retirer du plaisir de l'affrontement et aussi à retirer une vérité qu'il n'aurait pas trouvée par lui-même. Pour lui, justement, l'introspection, c'est bien, c'est ce qu'il fait dans tous ses essais, mais le dialogue, c'est mieux. Et la Boétie, c'est vraiment celui qui va permettre à Montaigne de s'engager dans un dialogue avec celui qui, pour lui, est son égal, Il part d'une amitié qui tellement, tellement sublime, tellement exceptionnelle qu'elle arriverait qu'une fois tous les trois siècles dans son chapitre de l'amitié. Et c'est vraiment une amitié qui chérira toute sa vie alors qu'elle durera seulement peu de temps puisque la Boétie va mourir 3 ans, je crois, après sa rencontre avec Montaigne.
Tristesse.
Et dans, tout au long de ses essais, dans le tome 1, qui est une sorte de tombeau à la Boétie où il publie ses textes, mais aussi jusqu'au tome 3, il va parler de la Boétie. Alors, quand la Boétie meurt, il va à Paris pour publier avec les textes de la Boétie et d'autres textes, puisqu'il a traduit aussi. Son père meurt presque en même temps que la Boétie et lui demande de traduire un auteur espagnol médiéval. Donc il va à Paris pour armer ses deux textes pour les publier, oui. Et dans les essais, dans le tome 1 des essais, il prévoyait au départ de publier le grand texte de la Boétie qui est de la servitude volontaire. Et finalement, il va publier des poèmes, des textes de jeunesse de la Boétie parce que de la servitude volontaire, c'est en soi un texte qui pose problème à Montaigne.
Qu'il n'est pas d'accord.
Dans son idéal de paix, justement. Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, puisque c'est il rencontre le texte avant de rencontrer la Boétie lui-même. C'est en lisant le texte de la servitude volontaire qu'il va avoir l'envie de rencontrer son auteur en se disant « c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un que je veux connaître ». Et dans ce texte, la Boétie pose une question qui traverse toute l'époque de Montaigne. C'est justement de pourquoi les hommes acceptent-ils d'être esclaves, ou plutôt de servir quelqu'un, de servir un tyran, ou comment la tyrannie est-elle possible? Pourquoi les hommes ne se révoltent pas? C'est le genre de question que se pose la Boétie. Et c'est une question qu'on retrouve par exemple justement à la fin des cannibales, quand les cannibales, quand on leur demande qu'est-ce qui vous étonne chez nous, ils disent pourquoi ces hommes armés obéissent-ils à un enfant de 9 ans, puisque Charles IX a 9 ans quand il les rencontre. Et donc c'est une question qui travaille Montaigne, on pense, mais en même temps il l'écarte. Il écarte le texte de la servitude volontaire, il décide de ne pas le publier en expliquant que, justement au début de l'essai de l'amitié, que c'est un texte trop polémique, qu'il essaie de désengager en quelque sorte la parole de la Boétie en disant que c'est un écrit de jeunesse, que peut-être aujourd'hui il ne l'écrirait pas compte tenu de ce qu'il est advenu de ce texte qui a été récupéré par les protestants, par les rebelles, ceux qui sont hostiles au roi, et qui s'en servent pour légitimer leur action en disant qu'il faut renverser le pouvoir autoritaire.
Il a eu peur d'ajouter du bordel au bordel en publiant
oui,
ce
voilà.
texte.
Donc, je pense que oui. C'est-à-dire, et puis aussi, peut-être par ego d'écrivain.
Ah.
C'est-à-dire que pour lui, le texte de la Boétie surpasse le sien. Enfin, c'est ce qu'il dit.
Jaloux, quoi.
C'est ce qu'il dit dans les essais. Donc peut-être c'est ce qu'il dit. Son idée, c'était d'encadrer de toutes les fioritures, c'est-à-dire ces petits chapitres où il écrit un peu sur ce qu'il veut. Mettre ces fioritures qui feraient comme un cadre au grand texte de la Boétie. Et finalement, il écarte, peut-être en se disant que c'est trop contraire à l'idéal esthétique de son livre, peut-être que justement il veut préserver son écrit, puisque finalement, les textes de la Boétie en eux-mêmes, il les retirera aussi, même les poèmes et l'introduction, pour ne laisser que le sien. Donc on ne sait pas trop entre engagement politique ou engagement esthétique, ce qui a primé dans ce choix d'écarter le texte de la Boétie. Mais la Boétie lui-même est au cœur des essais.
En quoi?
Comme je vous l'ai dit...
Je veux dire, oui, comme dans la recherche de l'autre, etc. Mais je veux dire, est-ce que cette amitié qui est un peu, vous m'avez dit, fondatrice de l'œuvre des essais, en fait, qui est un peu la base de... Comme
oui,
si les
surtout,
essais étaient
y a
un
cette idée que
tombeau...
Montaigne écrit les essais parce qu'il n'a plus d'amis à qui parler. Il dit, dans un chapitre, « Si j'avais un ami, j'écrirais ceci en forme de lettre à mon ami. Mais vu que je n'ai pas d'amis, personne à qui m'adresser sur ce terrain intellectuel. Je vais écrire pour moi-même.
Mmh.
Donc,
un peu prétentieux, le Montaigne, là, quand même.
Oui, oui. Dans beaucoup de passages, il dénigre son propre travail en disant que...
Fausse modestie.
Son fioriture, sans doute. Et mais en même temps, il dit « Je recherche un ami ». Et son livre est pour lui le moyen de trouver un nouvel ami, quelqu'un qui sera...
Un genre de Facebook.
Oui, voilà. C'est exactement ça. Quelqu'un qui sera à la hauteur pour se mesurer à lui, intellectuellement parlant, dans la discussion. Et d'ailleurs, il évoque une anecdote concernant son père dans De l'état de nos polices. Il dit « Mon père pensait qu'il faudrait pouvoir... que dans chaque ville, il faudrait qu'il y ait un endroit où les gens... mettre des petites annonces en disant ce qu'ils cherchent et d'autres en disant ce qu'ils ont à donner. Et le monde marcherait bien mieux comme ça. Donc voilà, il a inventé eBay avant l'heure, disant il faut que...
Je sais pas si le monde marche beaucoup mieux depuis qu'eBay, mais bon, il a le droit de se tromper.
Au moins, on trouve ce qu'on cherche maintenant. Et lui, il cherchait un ami et d'ailleurs...
On peut pas encore trouver d'amis sur eBay.
Les essais, oui. C'est peut-être parce que sur eBay, on ne se livre pas comme Michel de Montaigne se livre dans son livre. Et oui, les essais lui permettent de rencontrer un autre ami, en la personne de Marie de Gournay, qui va, à son tour, porter le livre de Montaigne. Une fois que celui-ci sera mort, elle va le rééditer. Elle va faire ce même travail qu'il voulait faire pour la Boétie, qu'il a en partie fait, de préserver pour la postérité. Et si la Boétie est...
C'est elle qui devient un peu son amie, Marie de Gournay.
Oui, oui, oui. Ils deviennent très amis. Même à un moment, elle le rencontre à Paris. Elle va à Paris parce qu'elle apprend qu'il est là-bas. Et à Paris, donc, c'est la révolte. Il se fait kidnapper. Catherine de Médicis doit intervenir pour qu'il se fasse libérer. Et il fuit chez Marie de Gournay en Picardie. Donc il reste un certain temps avec elle. Et il écrit « Si seulement j'étais moins vieux, je pourrais être ami avec elle plus longtemps, parce que pareil qu'avec la Boétie, cette amitié va être courte à cause de la jalousie de Montaigne.
» Mais donc voilà, finalement, il a réussi à trouver son ami. On en parle peu de finalement, moi j'avais jamais entendu son nom, à cette Marie de Gournay, c'est ça?
Oui.
Et mais pourquoi? C'est dommage.
Oui, c'est surtout parce qu'on parle de l'amitié de... Montaigne là aussi, et lui-même dit souvent que c'est une amitié indépassable, presque. Que la douleur de perdre son ami, c'est comme s'il avait perdu la moitié de lui-même, il ne s'en remettra jamais. Donc, cette. Justement, ce côté essentiel presque de la Boétie pour Montaigne, si. Peut-être que s'il en avait fait autant pour Marie de Gournay, ça serait venu contrecarrer son propos premier sur la Boétie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que...
Il n'aurait pas été ami avec elle parce qu'il se serait dit « Ah non, quand même, j'ai dit que la Boétie, c'était le meilleur, du coup, je ne peux pas revenir en arrière. »
Non, ce que je veux dire, c'est que Montaigne a déjà écrit le tome 1, le tome 2, quand il rencontre Marie de Gournay, il est en train d'écrire le tome 3... Et le 33 est vraiment centré sur son expérience de vie. Donc ce serait un peu une redite de revenir sur l'amitié Marie de Gournay.
D'accord.
Et le tome 1 est un tome clos. C'est-à-dire qu'au milieu du tome 1, c'est Michel Butor qui remarque ça. Il y a le texte sur la Boétie. Et le chapitre qui devait être de la servitude volontaire est au centre du tome. Ainsi, il y a une sorte de... Comment dire ? D'équilibre qui se fait entre le texte de Montaigne et celui de la Boétie, d'encadrement qui serait comme une sorte d'hommage. Donc, un tiers du travail de Montaigne est dirigé, serait dirigé en pensant à un hommage à son ami. Et je pense qu'une fois qu'il a dépassé ce deuil, qu'il est vraiment engagé pleinement dans son travail d'écriture personnelle, l'écriture de soi, la peinture de soi, il va pas revenir en arrière pour revenir sur des questions qui somme toute ne provenaient pas de sa réflexion personnelle, mais des lectures et qui lui fournissaient le sujet de ses premiers textes. Donc je pense tout simplement que c'est une question de timing. S'il avait rencontré Marie de Gournay en même temps qu'il avait rencontré la Boétie, son œuvre aurait été sans doute différente.
Mais pourquoi quand t'es petit, que c'est l'heure de goûter et qu'on te donne un gâteau. T'es tellement content que tu danses tout seul. Et pendant que tu le manges, tu fredonnes une chanson qui n'existe pas. Quel est le projet? J'ai déjà pensé à Motodad, c'était pas une good idea. Bah non, vous saviez pas, comment ça, qui vous l'a dit? Grâce à Dieu, je me suis auto-raisonné. Mon cœur a cherché et Tolstoy a raisonné. Pourtant j'étais désœuvré, les problèmes les résolvés. Mais à dire vrai, les lovés qu'on me voulait, je pouvais pas les trouver. J'allais pas voler les lovés d'un autre comme un vieux you vois. Celui que je vous vois voit tout, donc il allait tout voir. Je me suis auto-stoppé, j'ai fait de l'autopsie. Je me suis auto-soigné et Lord have mercy. On se disait encore des pâtes ce mois-ci. Mais crois-moi, c'est mieux qu'un cramoisi, plat-moisi. Quand je regarde tout ça, maintenant je lâche des autos, yes. Parfois je danse tout seul, je fais de l'autodance. Soit mettons que je sois fou, à moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros le concept, je pratique l'autodance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je suis tout seul chez moi, je lâche des petits pas. Et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Je pratique l'autodance comme un joueur de foot. C'est mieux que les actes manqués quand tu t'auto-loupes. Ou que tu te farasses ta loupe quand tu t'auto-croûtes. Trop s'auto-ghetto comme les ghetto youth. Ah. Fut une période, je me faisais auto-pitié. J'ai mis ma vie sur la table et l'avenir m'a fait du pied. Autodidacte, j'ai fait mon auto-école. Ce que tu auto-sèmes, tu l'auto-récoltes. Et si tu t'auto-bloques, en fait tu t'auto-ségrègues. Si tu dis que c'est pas pour toi, tu t'auto-apartheid. Il faut parier sur soi, faire un auto-loto. Savoir s'écouter, se faire une auto-radio. Avec leur smartphone, ils se font des auto-photos. Je suis gardien de mon image, je suis un photo. Maintenant, admettons que je sois fou. À moi tout seul, je suis une foule en liesse. En gros, le concept, je pratique l'auto-dance. Et je danse tout seul. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je suis là tout seul chez moi, et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance, je fais de l'autodance. Et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul, et je danse tout seul. Et venez, on danse tous tout seul, tous ensemble. Chacun dans son coin, tous dans la même pièce. Yeah. Et on danse tout seul, et on danse tout seul, et on danse tout seul, et on danse tout seul. On fait de l'autodance, on fait de l'autodance, on fait de l'autodance, on fait de l'autodance. Et on danse tout seul, et on danse tout seul, et on danse tout seul, et on danse tout seul. Et elle danse toute seule. The dance, the little dance, the little dance, the little dance. Et je danse toute seule. Et je danse, soit, soit.
C'était Autodance de This is La Peste sur la plus rebelle des radios. Émission monténoise de Thug, rap, littérature, ainsi que Révolution, avec notre émission aujourd'hui sur Montaigne, en compagnie de Mademoiselle de Monet. Alors, Mademoiselle de Monet nous a parlé de la reconnaissance de soi dans l'autre, de l'amitié entre Montaigne, la Boétie et cette Marie de...
Gournay,
dont on ne parle pas souvent. Et nous a également parlé de de cette intéressante analyse de Montaigne sur les cannibales, voilà, et de la réflexion sur le terme barbare. Qui sont les barbares finalement? C'est dans ce texte qu'il y a la réflexion sur les Pyrénées, où il y a cette phrase sur les Pyrénées, ou c'est pas dans ce texte où il dit bonne barbarie en deçà des Pyrénées, ou je me souviens plus de la...
Non,
c'est vérité en deçà des Pyrénées.
Et, non, c'est pas dans ce texte.
Ah bon. Ça collait bien, je trouvais, mais bon, bref.
Mais c'est peut-être de Pascal, ça, non?
Mais il me semble qu'il les cite, Montaigne.
D'accord.
Vous savez qu'ils étaient très amis avec Pascal?
Non, je pense pas.
Bref.
Quelques années d'écart, quand même.
Mais non. Donc, nous allons partir un peu sur la dimension un peu
d'homme libre de Montaigne. Ce Montaigne-là qui s'écrit donc un petit... Vous avez dit, vous avez employé une très belle image, mademoiselle de Monet, sur ce petit îlot de paix, voilà, dans un siècle troublé que constitueraient ses essais. Et ces essais qui sont, voilà, où Montaigne fait preuve d'une grande liberté de parole. Elle peut-être nous parler maintenant de cette liberté de parole de Montaigne.
Oui, ce qu'on... Justement, vous me demandiez d'intervenir dans cette émission en reliant Montaigne et cette thématique de la Révolution, de l'homme libre. Et j'ai bien montré tout de même que Montaigne n'était pas un révolutionnaire dans l'âme.
On ne peut pas mentir. On peut
sur
pas
le
mentir.
Plan politique, mais sur le plan personnel, avec sa réflexion sur les lois, sur les coutumes, le fait que justement, il juge de son temps sans préjugés. Sans intolérance vis-à-vis des hommes, mais sans préjugés vis-à-vis des coutumes et des habitudes, en essayant de se libérer de tout ce poids de la tradition. Et on voit que c'est un homme très libre dans sa tête, bien que dans ses gestes il le soit moins, puisqu'il ne se laisse pas, dicter sa parole par des institutions ou par ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'il est de bon ton d'écrire, en quelque sorte. Même aujourd'hui encore, on
sait... Le politiquement correct.
Voilà, les écrivains savent ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire, ou ce qui va choquer, et peut-être les mettre sur le devant de la scène. Et Montaigne n'est pas... Montaigne ne cherche pas à choquer, mais il ne cache pas non plus ses opinions quand elles dévient de l'opinion commune. On l'a vu avec les cannibales, mais... On voit par exemple dans le chapitre de l'amitié qui évoque par exemple les amours homosexuels sous l'Antiquité.
Alors, dans le chapitre de l'amitié, il parle des amours homosexuels.
Oui, parce que il veut montrer que l'amitié, c'est la réalisation parfaite de l'accord entre deux hommes. Ou deux femmes, ou un homme et une femme. Enfin, que c'est le rapport le plus épanouissant pour l'individu. Et donc, il le compare avec les autres rapports humains, comme l'amour, justement, ou la filiation. Et donc, il parle de l'amour entre hommes et femmes. Et il y a tout un paragraphe qui n'existe pas à l'origine sur les amours homosexuels. À l'origine, d'ailleurs, j'ai...
C'est-à-dire qui n'existe pas à l'origine, sur lequel il est revenu sur son passage pour rajouter ce paragraphe, c'est ce qu'on voulait dire.
Oui, je vais vous...
Plus tardivement.
Je vais vous retrouver la page. Donc, dans la première version publiée des essais, il écrit seulement cette phrase « Et cette autre licence grecque est justement abhorrée par nos mœurs. » Cette autre licence, c'est-à-dire les amours homosexuels, qui sont grecs, donc les amours à la mode dans l'Antiquité. Et puis, il passe à toute autre chose. Donc, il y a juste cette phrase qui évoque, en les condamnant, les amours entre hommes. Et puis, dans la dernière version du texte, la version posthume, il y a tout un long paragraphe où il expose ce qu'il entend par les mœurs grecques. Donc déjà, il en fait l'étalage. Et ensuite...
C'est-à-dire, il décrit...
Non, il dit, en général, c'est entre un homme plus âgé, un homme plus jeune. Il explique à ses lecteurs de quoi il s'agit, ce qu'il entend par là, la licence grecque. Et finalement, il conclut son paragraphe par une sorte de retournement qui est une forme, selon moi, d'éloge de ce rapport entre hommes, puisque il dit que sur le plan de l'esprit, en tout cas, ça offre que c'est un rapport qui est peut-être salutaire pour la patrie, par exemple, dans le cas d'Hermodius et d'Aristogiton. Donc à chaque fois, il donne des exemples très précis de ce dont il parle, qui aujourd'hui ne nous parle plus du tout. C'est ce qui date un peu le texte de Montaigne, puisque lui, il maîtrise tout à fait les références antiques, et pas nous. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que, à travers ces exemples, c'est que l'amour entre hommes peut servir au bien social. Donc ce n'est pas du tout un désordre, quelque chose qui viendrait menacer l'ordre établi. Et il conclut en disant que finalement cet amour bien souvent se terminer en amitié, chose qui ne se rapporte pas mal à la définition stoïque de l'amour. L'amour est le désir d'obtenir l'amitié d'une personne qui nous attire par sa beauté. Donc une fois que pour lui l'homme jeune perd sa beauté, ce rapport amoureux devient un rapport d'amitié, et donc la forme la plus évoluée du rapport entre hommes.
D'accord, donc en fait l'homosexualité, le rapport sexuel entre hommes, ça permettrait de préparer l'amitié à venir, surtout. C'est en ça que ce serait bien.
Oui, enfin, pas de préparer l'amitié à venir. Ce qu'il veut dire, c'est que souvent ça se transforme en amitié.
Oui.
Donc, ce n'est ni néfaste pour la société, ni néfaste pour l'homme en lui-même.
Ouais, c'est original, je ne savais pas.
Donc, ça peut étonner au 16e siècle de tomber sur une page telle que celle-ci.
Bah, même au 21e. Comprends pas, mais.
Une forme de défense des amours homosexuels. Et Montaigne, donc, par là, il montre surtout vers la fin de sa vie, quand il rajoute ainsi des passages, qu'il se fiche bien de ce qu'on peut dire sur son texte. Il ose dire ce qu'il pense. Et d'ailleurs, quand il y raconte une anecdote, quand il voyage à Rome, il s'arrête au Vatican. Et les gardes du Vatican saisissent son livre. Et il passait à l'examen. Et il est reçu par les membres d'une sorte de commission de lecture qui lui explique tout ce qui ne va pas dans son livre. Il souligne des passages, il dit ça, il ne faut pas le dire.
Vous avez des exemples de, vous savez, ce qui lui reprochait ?
Non, justement, il ne s'attarde pas là-dessus. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il ne modifie pas du tout, enfin, il ne tient pas du tout compte de ses observations. Il rajoute juste un petit passage dans un des chapitres en disant qu'il est très chrétien et qu'il se soumet au pape. Mais sinon, son texte reste tel quel. Et il y a par exemple des passages sur l'inégalité entre les hommes, ou surtout l'une des phrases les plus connues de Montaigne qui termine presque les essais. Dans le dernier chapitre, le chapitre de l'expérience, où il dit les hommes sont comme montés sur des échasses. Mais sur des échasses encore, faut-il marcher de nos jambes ? Et au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. Donc, qui est assez provocateur, même vis-à-vis du roi dont il est le sujet, en disant tout élevé que l'on soit, nous sommes tous de l'humaine condition. Donc, il remet un peu à sa place. À leur place, les gens de haute condition.
Oui, et Bouba d'ailleurs a appris cette phrase.
Ah oui.
Oui, il a dit.
Ça bien la postérité de Montaigne.
Exactement, il a dit si tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Voilà, ce qui est une édition directe, mais ça ne veut pas dire la même chose, mais bon.
Non, pas vraiment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que à mesure que le texte grossit et que Montaigne prend de l'âge, sa parole se libère de plus en plus. Et il n'a pas peur de choquer, voire de remettre en question l'ordre établi de la société.
Et alors, bon, c'est bien beau d'écrire tout ça, d'écrire qu'on est libre, de dire « je m'en fous du politiquement correct », etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Est-ce que dans ses actes, il a manifesté une même liberté ? Ou alors est-ce qu'il s'est contenté d'écrire et de faire le beau un peu dans son gros livre ?
On ne peut pas dire que Montaigne fait le beau dans son livre, vu qu'il passe son temps à dire que son livre ne sert à rien et qu'il perd son temps en l'écrivant et que ce ne sont qu'un ramasse de foutaises. Mais en tout cas, dans ses actes, oui, on peut penser que Montaigne est un homme assez libre dans ses actes. Bien sûr, il sert son roi. Quand il est rappelé pour devenir maire de Bordeaux en 1581, il est alors en voyage. Bon, il met quand même 3 mois pour rentrer, donc il n'est pas très pressé de se plier à la fonction.
Mais il rentre.
Oui, voilà, il rentre tout de même. Il répond à l'appel du devoir, je dirais. Et tout au long de sa vie, il va servir le roi dans des missions diplomatiques. Il va même se faire kidnapper. À un moment, c'est un passage assez drôle où je sais pas si c'est des voleurs ou des gens du camp adverse, en tout cas, qui se saisissent de lui Et qui, alors qu'il est avec son livre, avec la dernière version des essais qui n'est pas encore publiée. Donc les essais ont eu chaud à ce moment-là. Et finalement, il est libéré parce qu'il a une bonne tête. C'est ce qu'il écrit dans le chapitre de la physionomie. Que, à force de le regarder, ses kidnappeurs sont dit non, ça ne peut pas être un mauvais homme.
Il a l'air sympa.
Voilà, il est propre sur lui, on va le laisser partir. Donc voilà, délit de faciès positif pour Montaigne. Et. Il se fait aussi, comme je l'ai dit, kidnapper à Paris, c'est Catherine de Médicis qui permet sa libération.
Il se fait kidnapper deux fois.
Oui, oui, oui. Il lui arrive tout un tas de choses. On dirait un roman, roman à l'eau de rose, ou des épisodes abracadabrantesques qui lui arrivent un peu tous les quatre matins. En même temps, il vit dans une époque dangereuse, donc c'est normal qu'il lui arrive quand il sort de son chez-soi-chez sécurisé. De rencontrer des gens pas forcément très fréquentables. Malgré justement cette obéissance au roi, il semble un peu faire ce qu'il veut déjà dans la vie de tous les jours. Par exemple, il se soucie pas vraiment d'économiser, d'entretenir son château. Il en parle à plusieurs reprises. Il dit oui, mon père, il a fait ces travaux-là, moi. Je fais pas grand chose. Quand j'étais jeune, j'étais radin. Je voulais garder mon argent. Maintenant, je sais pas. Si ma terre rapporte pas trop, je dépense pas trop. Il se pose pas beaucoup de questions sur est-ce que je mène ma vie comme il faudrait. Est-ce qu'il faudrait que je fasse des efforts dans ma conduite. Enfin, il se laisse un peu vivre. Et surtout, il écrit. Vers la fin de sa vie, il rentre chez lui, il dit au roi, bon, maintenant ça suffit, je vais me reposer parmi les miens. Mais dans les essais, il y a un passage assez connu où il explique que plutôt que de mourir comme les autres hommes, traditionnellement, dans son lit, entouré de sa famille, ce qui est un peu la mort topique au XVIe siècle.
Celle qu'on veut aussi, celle qu'on désire.
Oui, voilà, lui il dit... J'ai pas envie d'embêter les gens avec ça, donc je préfère mourir à cheval. Quand on me demande pourquoi je voyage à mon âge alors que c'est dangereux, que je pourrais mourir, je dis oui. De toute façon, la mort viendra me quérir n'importe quand. Et si je suis en train de planter les choux, je planterai mes choux et c'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui. Justement, il pense qu'il ne va pas faire grande œuvre. Et dans ses actions aussi, elles sont empreintes de noblesse et de modestie. Il y a ce souci de préserver son nom, comme j'ai dit, et cette idée qu'il n'est pas indispensable, qu'il peut mener son train de vie, sa famille, enfin, il n'est pas très attaché à sa famille. Quand il parle de ses gens, bon, il les respecte, on voit bien qu'il a des rapports assez généreux, assez correct avec eux, mais encore une fois, il se voit pas en maître de son domaine, donc c'est pas quelqu'un qui est... Il est attaché à sa terre, mais il a envie de voyager. Vous voyez, il y a plein de... des tensions dans son existence, comme dans sa pensée, entre l'ici et l'ailleurs, le maintenant et le après, où c'est quelqu'un qui laisse sa pensée vagabonder et qui la ferait vagabonder comme lui voudrait vagabonder en quelque sorte sur la terre en allant au contact des hommes en faisant justement ce qu'il appelle l'expérience, c'est-à-dire en expérimentant les lieux, les espaces, en toutes ces expériences qui font qu'un homme a bien rempli sa vie. Lui, il veut mener ce qu'il appelle il parle de vivre à propos, c'est-à-dire quand je danse, je danse, quand je dors, je dors. Je fais ma vie de plaisir simple.
Oui, mais est-ce que ça contraste pas un peu finalement avec cette stature, cette posture de moraliste un peu qui se donne dans les essais? Quand il écrit on va questionner le mot moraliste, peut-être quand il écrit des chapitres comme de l'éducation des enfants, etc., toutes ces choses, est-ce que le fait de dire il vagabonde finalement, il a son esprit qui est là, qui est ailleurs, ça contraste pas avec le fait qu'il écrit quand même une œuvre où il donne un certain nombre d'indications, de ce qu'il pense bon et, ou pas?
Alors, dans le cadre de ce chapitre précis de l'éducation des enfants, l'institution des enfants plus précisément, C'est un chapitre qu'il écrit à une de ses amies qui lui demande de donner pour lui l'éducation.
Il donne quand même, voilà.
Mais dans, ce n'est pas un. Parfois, on fait. Il y a des livres qui sortent qui disent comment bien vivre avec Montaigne, comment mener sa vie avec Montaigne. Montaigne ne dit pas comment il faut vivre. Éventuellement, il dit comment il ne faut pas vivre.
Ouais, c'est bon.
Mais surtout, lui dit faites des expériences, mais pas nécessairement la mienne. Il évoque son cas à son ami dans l'institution des enfants en disant « Moi, j'ai été élevé comme ça. Après, quand je suis allé au collège, ils m'ont pourri mon latin parce que l'éducation n'est pas bonne. » C'est plus une critique des collèges jésuites qu'un manuel d'éducation, en quelque sorte. Et même, il y a beaucoup de digressions chez Montaigne. Et là encore, dans ce texte, il dit « Oui, il y a beaucoup de grandes idées. Il faut rencontrer les hommes. » Il faut se former avec des gens qui savent s'exprimer, mais ne pas devenir barbant. Enfin, il y a toujours y a beaucoup de conseils, mais c'est pas Émile de l'éducation. Ça fait pas 500 pages. Il pense pas. Oui, il y a cette Montaigne dit toujours que il cherche la vérité, qu'il n'a pas la vérité. Et il y a pas chez lui. Cette forme qu'on verra plutôt chez des philosophes aussi comme Rousseau, qui assènent une vérité, qui disent c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça que l'enfant va se réaliser ou que l'homme va se réaliser. Lui, il n'a pas cette ambition. Il écrit ce qui passe par la tête.
Donc finalement, quand on parle de Montaigne comme d'un moraliste, c'est un peu erroné.
C'est un moraliste. Il faut pas mal comprendre le sens du mot moraliste.
Ou alors il faut. Voilà.
Il fait pas la morale. Il ne dit pas ainsi qu'il faut vivre. C'est ainsi qu'il faut vivre. Les moralistes comme Montaigne, comme les moralistes du XVIIe siècle, observent les hommes. Un moraliste, c'est quelqu'un qui observe l'homme, qui dévoile ses travers, qui cherche derrière les apparences sa nature profonde. Montaigne fait ce travail de moraliste en évoquant ce qui sera vraiment un lieu commun des moralistes comme La Rochefoucauld, le masque qui couvre l'homme, l'homme public, l'homme privé, la fausseté des intentions affichées, ce genre de choses. Donc, mais lui, il va pas aussi loin que les moralistes du XVIIe, parce qu'il dit l'homme que je connais, c'est moi. Et personne ne me connaît mieux que moi. Et je ne connais pas mieux les hommes que eux se connaissent. Donc je ne parle que de moi. Parce que je suis bien mal formé, mais c'est celui que je maîtrise. Il suit le précepte de Socrate, connais-toi toi-même. C'est pour lui, puisqu'on ne peut pas avoir de vérité claire sur les autres ou sur le monde autour, qui nous entoure, la vérité qui serait toujours la plus sûre et la plus facile à atteindre, c'est la vérité sur soi. Donc Montaigne fait un travail sur lui-même. Il est moraliste en cela qui s'étudie lui-même, et d'ailleurs il va très loin quand il n'étudie pas seulement sa propre psychologie ou ses travers, quand il dit je m'énerve contre les gens bêtes, j'ai pas envie de parler avec eux. Après il dit oui, mais c'est peut-être parce que il me montre ma propre bêtise. Enfin voilà,
il est remis en question.
Oui, il se remet beaucoup en question psychologiquement. Il s'étudie aussi physiquement. Il parle beaucoup de ses maladies, de ses douleurs. Dans son carnet de voyage, il raconte quand il va aux toilettes. Enfin, il a pas de limite sur le discours sur lui-même, voyez.
Et en même temps, le discours sur lui-même lui permet de connaître ce qu'il dit, l'humaine condition.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. C'est ce que dit Montaigne. Et c'est en passant par l'individuel qu'on touche à l'universel. Donc, quand il se parle lui-même, il se dit que c'est là que réside son humanité. Enfin, pour trouver l'humanité, il faut se trouver soi-même. Et c'est aussi pour ça qu'il observe les autres hommes, ceux qui l'entourent directement, ceux qui sont plus éloignés de lui, comme les cannibales, en les pensant toujours comme l'autre qui me regarde, l'autre que je regarde, mais que je ne comprends pas nécessairement et donc que je ne dois pas juger. Et il n'y a pas Il est attaché par exemple aux hommes qui sont de sa région. Il dit quand ils ont lu mon livre, ils m'ont retrouvé ou bien ils m'ont pas retrouvé. Il y a ces hommes qui le connaissent et par le livre, il cherche à se dépeindre tel qu'il est pour qu'ils le reconnaissent, avec cette idée qu'il est aussi naturel dans la vraie vie qu'il l'est dans les essais. Et puis il y a tous ces hommes qui ne le connaissent pas et qui peut-être vont le rencontrer dans les essais. Il veut être aussi vrai qu'il est dans la vraie vie pour qu'il rencontre le vrai moi de Montaigne. À chaque fois, on retrouve cette notion de vérité qui permet d'accéder, de toucher l'autre. Parce que, aussi, il s'adresse au lecteur, et le lecteur, il est touché par Montaigne. C'est sans doute pour ça qu'il a une telle postérité. Ce n'est pas seulement par les idées, c'est par cette forme d'exhibition, de découverte de soi. Il le dit, si je pouvais, je me peindrais tout nu. Et on se reconnaît dans ce que dit Montaigne. Il y a toujours ces petits vices qu'on a nous-mêmes, toujours, qui sont les vices que mettent tellement en avant les moralistes. Eh bien, ces vices-là, Montaigne les partage avec nous.
Alors que les moralistes du XVIIe, dont vous parlez par exemple, les dénoncent, ces petits vices, lui, c'est ce que vous voulez dire ou pas ?
Non, 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 ce que je veux dire, c'est que les moralistes vont faire une généralité de la dénonciation de la fausseté. Alors que Montaigne ne juge pas l'humanité, toute l'humanité. Alors Foucault dit les vertus ne sont plus souvent que des vices déguisés. Il parle des vertus en général, il parle pas d'un homme singulier quand il parle de la fausseté, il parle de toute l'humanité. Voilà, okay. Voilà les travers de l'homme en général. Montaigne parle surtout des travers de l'homme particulier qu'il est. Et c'est peut-être en cela qu'il touche plus l'homme général que les moralistes eux-mêmes. Parce que, en se dépouillant, il montre sa sincérité, il nous montre la vérité de son être. Et c'est ainsi que l'œuvre parvient à travers les âges à sauvegarder cette personnalité si étonnante encore aujourd'hui.
Oui, c'est aussi une grande leçon de tolérance, peut-être, qui nous dit, on pourrait dire que finalement, s'il y avait des degrés de tolérance, Montaigne serait plus tolérant que ces moralistes du XVIIe. Puisqu'il n'est pas là à faire des généralités. Voilà, la tolérance, ça passe aussi par une prise en compte de l'autre comme un cas particulier. Si on ne fait que des généralités, on ne peut pas arriver à être tolérant.
Oui, c'est encore cette idée que Montaigne rejette tous les préjugés, toutes les formes de préjugés. Et il les rejette en les embrassant. Dans ses recueils de faits divers, il accepte les faits vraisemblables comme les faits invraisemblables, sans juger ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que lui n'a pas la vérité. Et donc, il prend tous les hommes tels qu'ils sont, sans dire un tel est bon, un tel est mauvais. Et d'ailleurs, il met bien en garde le lecteur en lui disant, dans le chapitre sur l'inéquité entre les hommes, il dit oui. On se trompe quand on juge les hommes. On juge les hommes en fonction de leur apparence, en disant un tel est noble, un tel est vilain, un tel est pauvre, un tel est riche. Et c'est ça qui ferait la différence. Mais lui dit non. La différence, elle est ailleurs. Et ce qu'il met en... Il met en doute ce regard qui juge à chaque fois. Et le chapitre de l'inégalité qui est entre nous, c'est ce qui s'appelle comme ça, justement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est moins l'idée qu'il y a une inégalité entre les hommes, parce que pour lui, elle existe, que l'inégalité ne se trouve pas là où on la voit. Donc, il remet toujours en cause le regard. Le regard qu'on porte sur l'autre, qu'on porte sur ce qui est étrange à nous, en refusant le préjugé et en cherchant une vérité qui ne serait pas la vérité, avec un V majuscule. Mais la vérité qui serait la sienne et qui peut être contestée, il n'y a pas de vérité absolue pour lui, même ce qu'il dit. Il cherche justement la contestation dans le rapport à l'autre. Il cherche à ce qu'on lui montre qu'il a tort pour s'élever, encore une fois. Donc Montaigne est un moraliste, mais un moraliste qui ne veut pas porter de vérité absolue.
Ben, je vous remercie, Mademoiselle de Monet, pour cette très riche émission que vous nous avez faite sur Montaigne. On a appris dans le calme, hein, parce qu'à Montaigne-Oisetoque, la révolution se fait aussi calmement dans la tête. Et donc aujourd'hui, je pense que vous avez ouvert de nombreux nouveaux horizons.
De rien.
Et j'espère que vous viendrez nous faire peut-être un autre jour une émission sur cette Marie de...
Gournay,
dont je n'arrive
la grande amie de Montaigne.
Je n'arrive pas à retenir le nom.
Qui était une femme assez étonnante pour son temps et...
Une femme très libre.
Et oui, dont on parle assez peu, mais qui a permis aux essais de devenir ce qu'ils sont, puisque Montaigne tenait une durée de vie très courte à son œuvre, et c'est elle qui l'a transformée. Donc, justement, en ayant ce même rôle de passeur qu'a eu Montaigne pour la Boétie.
D'accord. Mais ce sera en tout cas une émission peut-être qui, si, ouais, si elle voit le jour, sera très intéressante. Alors je vais vous laisser, chers auditeurs, restez bien à l'écoute de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Montaigne Oisetoque, c'est tous les lundis de 13 à 14 sur le Facebook et sur le blog. Continuez à soutenir Radio Canu, continuez la révolution. Et voilà, je vous laisse sur une musique qui annonce l'anniversaire de celle dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Notre bonheur à tous, parce que c'est merveilleux, c'est un jour extraordinaire. Alors, heureux anniversaire. Aujourd'hui, on est tous là pour faire la fête. On est tellement heureux de te retrouver, pour t'entourer d'amour. Ce jour t'appartient. Alors, joyeux anniversaire.